Si vous me retrouvez demain matin sur l'étage d'un hôpital en psychiatrie, puis que vous venez me voir, puis vous me demandez que vous me dites bon, tu as avantage à accepter. Non. Je suis en colère, là. Oublie ça. On n'accepte pas. Mais par contre, si tu me demandes d'apprivoiser graduellement, on va le faire.
Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Richard, avec qui on va parler de rétablissement. Et je te propose tout simplement de te présenter, Richard.
Bon, alors, mon nom est Richard Landois. J'habite la ville de Québec depuis plusieurs années. Et puis, je vis avec une très jolie femme que je suis allé cueillir comme ça dans une île du Saint-Laurent. En vous raconter mon histoire, vous allez voir comment est-ce que tout ça s'est produit. C'est une toute petite île qui s'appelle l'île aux grues et c'est une île où habitent environ une centaine de personnes à l'année. Toujours est-il que je suis une personne qui est fortement scolarisée. Donc, j'ai deux baccalauréats, un certificat aussi à l'Université Laval. Et puis, l'Université Laval, c'est celle de Québec. Et puis, disons qu'au fur et à mesure que la vie avançait pour moi, il n'était pas question de devenir un carriériste. Je suis devenu un opportuniste. Alors, pourquoi ça? C'est que effectivement, il s'est présenté toutes sortes d'occasions, dont un épisode de trouble bipolaire rocambolesque que j'ai vécu dans les années 96-97. Puis quand je dis rocambolesque, c'était manie, psychose, délire mystique. Puis après ça, ben, trois phases de dépression majeure, tout ça dans la même année. Puis en parallèle, ben, j'ai vécu une séparation et puis aussi la perte d'un emploi que j'aimais énormément. Alors, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Ça ressemble à un roman catastrophe, mais vous allez voir que ça peut prendre une autre tangente aussi. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, au bout de cette année-là, je me suis retrouvé effectivement à l'île aux grues, donc la toute petite île. Et puis, trois semaines après être entré à Lille, j'ai rencontré cette femme avec laquelle, qui s'appelle Fabienne, qui a un nom français, donc qui avec laquelle j'habite maintenant depuis au-delà de 25 ans. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, hein? Alors, ça a été fulgurant avec elle. Puis, elle n'a pas eu peur. Vous savez, la détresse, bon, au niveau du trouble bipolaire, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Souvent, je dirais de façon, je dirais pas temporaire, mais pendant une certaine période de temps. Puis, il arrive qu'effectivement, il se passe à un moment donné où on peut passer à d'autres choses pour toutes sortes de raisons. Je vais vous parler d'ailleurs de ma vision de ça. Et moi, à l'île aux grues, quand j'ai rencontré Fabienne, je lui ai prêté un petit livre qui s'appelait « Les hauts et les bas de la maniaco-dépression », parce qu'à l'époque, on appelait ça la maniaco-dépression. Et c'était écrit par un couple du Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick étant la province voisine du Québec. Et puis, je lui ai prêté le livre, puis elle m'est revenue, parce que je voulais qu'elle sache, je voulais pas qu'elle apprenne par la bande que Richard est arrivé à Lille suite à un épisode de trouble bipolaire. Donc, je lui ai prêté le livre, puis quelques jours après, elle m'est revenue en me regardant, puis en me disant, « Moi, Richard, ça ne me fait pas peur. » Fait que ça m'a comme fait drôle un petit peu. Je me dis, elle est plus virile envers que moi. Pour moi, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Puis là, elle me regarde, puis droit dans les yeux, puis elle dit, « Tu sais, Richard, elle dit, moi, je vis avec un père qui a un diabète très sévère. Il est amputé d'une jambe, il est amputé du pied de l'autre jambe, et puis il a un sac parce qu'il a un cancer du côlon. » Puis là, après ça, elle me regarde, puis elle dit, « Si tu as le goût de rencontrer quelqu'un qui aime la vie puis qui fonce dans la vie ici à l'île aux grues, je t'invite à rencontrer mon père. » Fait que ma vision des choses s'est complètement transformée à ce moment-là. Parce que, évidemment, quand on est près de la crise, on est comme centré sur soi. Puis, des fois même, on s'imagine qu'on est seul à souffrir. Puis on s'imagine, bon, ça va être difficile de s'en sortir, etc. Puis, cette rencontre-là avec Fabienne, puis après ça, ben, la rencontre de son père, ça m'a amené à penser qu'effectivement, la détresse peut prendre toutes sortes de formes. Puis là, je me suis mis à côtoyer cet homme qui est devenu, dans le fond, un grand modèle de vie pour moi. Et, il était tout petit, en fait, physiquement, mais c'est devenu mon plus grand modèle de vie. Bon, il est décédé au-delà d'une quinzaine d'années, mais au plan spirituel, c'est un homme qui est très, très présent dans ma vie. Même encore aujourd'hui, je vais lui parler quand je suis en train de prendre ma douche ou des choses comme ça. Je trouve ça important, ces choses-là, de rester connecté avec les gens avec lesquels on a eu des beaux moments dans notre vie. Donc, pour moi, il y a eu lui, puis il y a eu aussi une dame, une Suédoise, que j'ai rencontrée aussi. Mon Dieu, c'était fin des années 90, dans les années 80. Et puis, elle habitait le sud de la Suède. Et puis, c'est une femme remarquable que j'ai toujours profondément aimée. Et je lui parle elle aussi. Donc, je trouve ça bien drôle, tu sais, parce que des fois, je me dis, bon, ben, coudonc, s'il y a des gens qui me voyaient parler comme ça à d'autres entités, à des personnes qui sont décédées, alors que je prends ma douche, tu sais, bon, j'espère qu'ils ne penseront pas que j'ai à prendre plus de médication. Alors, c'est comme ça. je prends rien.
En fait, d'ailleurs, c'est un sujet que je trouve intéressant dont tu parles, justement, qui est le côté, parfois, en phase maniaque, d'avoir un petit peu de psychose. Et souvent, on peut lier ça un peu à la spiritualité. Comment est-ce que tu...
Ouais.
Mais non, mais ça dépend des personnes, mais je suis curieux d'avoir ton avis, justement. Parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Et parfois, j'ai eu plusieurs témoignages. Quel est ton avis, justement?
Oui, c'est ça. Mais tu as raison. Écoute, moi, j'ai été élevé dans une famille qui est très catholique, comme on dit. Et puis, quand je me suis retrouvé emmené rapidement en psychose, doublé d'un délire mystique, moi, j'ai lié ça effectivement à mon éducation. Pour moi, c'était quelque chose qui était... si j'avais été de confessionnalité, musulmane ou bouddhiste, peu importe, j'aurais probablement pas vécu les choses de la même façon. Alors, j'ai vécu vraiment un délire mystique où je me prenais moi-même pour le troisième messie. Donc, je le dis en riant, mais en même temps, on a tous nos façons de voir, mais moi, je le dis en riant lors de conférences, et vous êtes en présence du troisième Messie. Donc, après Moïse, Jésus-Christ, c'est Richard. Alors, voilà, c'est comme ça. Mais c'est sûr qu'en cours de route, en côtoyant d'autres personnes qui vivent avec soit un trouble bipolaire ou d'autres types de maladies psychiatriques, on s'aperçoit bien qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui vont vivre des délires, effectivement. Et puis, c'est ça, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. on est tous différents. Et puis, donc, on vit tous par exemple, ce que moi j'ai vécu, d'autres personnes qui vivent le trouble bipolaire ne le vivent pas de la même façon. Que ce soit pour un épisode, que ce soit pour le rétablissement aussi après, c'est unique. C'est quelque chose qui est très, très unique. Alors, puis je pense qu'il faut le considérer aussi de cette façon-là.
Je suis assez d'accord dans le sens où on a tous, par notre éducation, une manière de voir les choses différemment. Et c'est ce qui est assez compliqué d'ailleurs, parce que parfois, on a tendance à vouloir se comparer à d'autres. Alors qu'en fait, on n'a pas la même pathologie, on n'a pas la même base. Et ce qui marche pour l'un ne marchera pas spécialement pour l'autre. Pour autant, et justement, quand on dit que ça marche, généralement, on parle de rétablissement de plus en plus.
Oui.
Et justement, toi, comment est-ce que tu définirais ce que c'est le rétablissement pour toi?
Ben, écoute, c'est de me remettre sur patte, comme on dit. Là. Je fais partie d'un organisme qui s'appelle Vox Québec. Et puis, les trois valeurs de base de cet organisme-là sont l'espoir, le rétablissement, la résilience. Alors, tout ça est lié. Et pour moi, ça a été de prendre le temps et de poser les gestes, c'est-à-dire quand je dis poser les gestes, c'est tout d'abord semer. Le mot semer, pour moi, il est très, très important. Autrement dit, il y a toutes sortes d'outils qui sont disponibles, mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te responsabilises pas, il ne se passera rien. Donc, ça aussi, ça appartient à la personne qui vit. Moi, ce que nous, on appelle ici, dans cet organisme-là, les experts de vécu. Alors, vois-tu, alors pour moi, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Moi, je suis passé par une thérapie avec un spécialiste ici dans un centre local de services communautaires, mais on a aussi au Québec ce qu'on appelle justement des organismes communautaires. Alors, et puis, dans mon cas, j'ai pu côtoyer d'autres personnes qui vivaient avec un diagnostic de trouble bipolaire et qui étaient engagées dans une phase de rétablissement. Alors, on se rassemblait une fois par semaine. Puis, je me rappelle, puis j'étais plein de préjugés, hein, je ne m'en cacherai pas, là. Puis, je pense que ça, c'est un élément qui fait partie, entre guillemets, qui fait partie de la game. Mais je pense qu'il faut réussir à passer au travers de ça. Moi, je me rappelle le premier groupe d'entraide auquel j'ai assisté, j'ai participé plutôt. Il y avait un professeur du collégial, il y avait une religieuse, il y avait un notaire, il y avait un gestionnaire de ce qu'on appelle Hydro-Québec ici au Québec, c'est-à-dire la grosse compagnie là, qui s'occupe de l'électricité. Donc, je me suis retrouvé avec, on était cinq comme ça, à discuter justement sur notre senti, qu'est-ce qu'on vivait, etc. Tu sais, c'est là que ça devient rassurant de pouvoir échanger avec d'autres qui ont vécu. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. C'est correct de faire une thérapie, de régler ce qu'on a à régler. C'est même très bien, puis essentiel dans la plupart des cas. Mais d'avoir un groupe d'entraide comme ça, c'est quelque chose qui on perd pas ça. Moi, aujourd'hui encore, je vais prendre le déjeuner avec certaines de ces personnes-là. C'est précieux, là. Vous avez on peut pas savoir comment est-ce que ça peut être précieux. Puis, chacun est rendu à différents niveaux dans son rétablissement. Puis, c'est ça, on avance comme ça. Puis, souvent, il y a un sujet qui va ressortir. Puis, on va faire une heure comme ça à exprimer notre senti. Puis, après ça, dans la deuxième heure, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe ou un sujet d'actualité ou des trucs qui ressemblent à ça. Alors, c'est... À Québec, il y a un centre qui s'appelle le Centre L'Équilibre. Moi, j'étais là pendant plusieurs années. Au début, j'y allais comme membre, puis un peu plus tard, mais je suis devenu président du conseil d'administration. Alors, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Puis, pour les bénéfices des gens qui nous écoutent, il y a un très gros organisme au Québec qui s'appelle Relief, R-E-L-I-E-S. Vous pourrez aller voir le site Internet. Et c'est un organisme, justement, avec multiservices, je vous dirais, avec des pères. Il y a deux pères aidantes là-bas. Ensuite de ça, ils ont des services groupes d'entraide, effectivement, pour Montréal, parce qu'ils sont situés physiquement dans la région de Montréal. Mais ils ont aussi une ligne d'écoute provincial et même davantage, qui couvre même le Canada francophone. Ils ont aussi des forums de discussion, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors, vous voyez un petit peu, c'est utile, là. C'est vraiment utile. Donc, moi, je trouve ça le fun parce que c'est du ressort communautaire. On n'est pas dans le réseau public. Le réseau public, bon, moi, j'ai bénéficié du réseau public, puis j'ai travaillé même avec le réseau public, c'est correct. Mais le milieu communautaire, je dirais, apporte beaucoup plus de nouveautés, d'approches cliniques différentes ou des trucs qui ressemblent à ça. Alors, c'est pour moi, j'ai bénéficié beaucoup, puis jusqu'à travailler depuis une quinzaine d'années dans ce milieu-là. Donc, je travaille avec le réseau communautaire en lien avec le réseau public. Alors, vous voyez un petit peu, c'est ici à Québec, on a au-delà de 45 organismes communautaires liés aux enjeux de santé mentale. Alors, ça vous donne une idée, mais c'est des organismes qui touchent, je ne sais pas moi, l'intégration au travail, tantôt ça peut être la promotion-prévention, tantôt ça peut être l'entraide, c'est toutes sortes de volets. Puis il y a aussi des organismes qui sont en milieu rural, donc ce qui est souvent qui apporte une dynamique qui est souvent très différente de ce qu'on peut voir en milieu urbain. Alors ça, c'est Et là, je parle beaucoup de l'image, j'ai l'impression. Là, je
vais être... En fait, j'ai pris pas mal de notes et c'est vrai, ce dont tu parles, qui pour ma part a été aussi très important, c'est le côté groupe d'entraide. Et moi, je parle souvent de groupe de parole, en fait, mais tu vois ça de la même manière, du coup?
Sûrement, absolument. C'est de la prise de parole, de toute façon, c'est la même chose.
Non, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi aussi, ça a été très important de pouvoir, en fait, parler à des personnes qui ont vécu des choses un peu différentes, mais tout de même avec une certaine ressemblance, et un peu d'expliquer son vécu, ce qu'on a eu comme difficulté, parler un petit peu de ses phases, ce qu'on a mis en place. Et toi, après, tu nous expliquais, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se passe au Canada et notamment au Québec. L'importance d'avoir plein d'organismes différents qui vont travailler ensemble pour t'aider à justement atteindre tes objectifs. Et je parle d'objectifs, mais toi, donc, tu définissais, tu avais l'espoir, le rétablissement, la résilience. Et si on parle de toi, ton rétablissement, comment est-ce que tu l'expliquerais justement?
Ah mon Dieu, c'est une belle question. La première des choses, je pense qu'il y a une question de valeur là-dedans. Tantôt, on parlait de spiritualité. Je n'ai jamais décroché de mes valeurs. Oui, je souffrais. Oui, je vivais une tristesse. Je me suis séparé en phase de manie. J'ai perdu un beau travail, malheureusement. Fait que, je n'ai pas à bout de m'en sortir dans le sens que la médication qu'on me donnait, ça a pris un an avant de faire effet. Puis moi, à l'époque, je vais le mentionner, mais j'aime pas le mentionner parce que si c'est bon pour moi, ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Okay? Alors pour moi, c'était du lithium à l'époque. Et puis, ça a fait effet pendant plusieurs années, sauf que ça a pris un an avant de s'installer. Donc, c'est pour ça que j'ai eu des hauts et des bas pendant tout un an. Je partais, comme on dit, j'ai fait mon gros épisode, à un moment donné, whoop, je repartais un petit peu comme en hypomanie, si on veut. Là. Puis, mais là, les gens autour de moi, ils étaient bien fins, là, mais ils connaissaient la maladie. Là. Fait qu'ils me ramassaient, puis je me retrouvais à l'hôpital dans le temps de le dire. Puis là, je me retrouvais en phase dépressive aussi. De vivre trois phases dépressives majeures dans la même année, au bout de tout ça, tu te poses de sérieuses questions. Tu te dis, c'est mieux de ne pas arriver encore trop souvent là, parce que je ne veux pas dire que je vais avoir des idées suicidaires, mais en même temps, je ne voudrais pas passer ma vie comme ça. Mais en parallèle, ben c'est ça, j'avais le groupe d'entraide là que je parlais tantôt. À l'époque, ça s'appelait pas le Centre L'Équilibre, ça s'appelait le Centre d'entraide du trouble affectif bipolaire de Québec, ce qui est pas stigmatisant pantoute comme terminologie, mais c'est pas grave. Donc, ça a changé de nom en cours de route, c'est correct. On peut évoluer au fil du temps, alors c'est correct. Pour moi, c'est ça qui a été le plus déterminant. Et autre élément déterminant, c'est que les gens alentour de moi, mes parents particulièrement, parce que je suis allé demeurer chez mes parents pendant une certaine période de temps, se sont pris en main eux aussi. Puis il existe des organismes pour les membres de l'entourage. Il y en a au Québec, il y en a 45. Je sais qu'il y a en France, il y a c'est une à femme, je me souviens bien. Là.
C'est les plus connus. Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est eux qui sont les plus connus. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description.
Oui, c'est ça. Puis il y a une AFAM, il y a Similes en Belgique, il y en a une autre aussi en Suisse. Tu sais, c'est très, très précieux. Moi, je trouve que les membres de l'entourage ont tout avantage à aller chercher de l'information, à comprendre que la personne qu'ils accompagnent, il y a tout lieu de croire qu'elle va s'en sortir, tu sais, qu'elle va vivre un rétablissement, tu sais. Puis, il ne faut pas se décourager, même si des fois, il y a des périodes où on est plus down, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc, pour moi, c'est, C'est très, très important de parler de cet élément-là. Puis, ça en fait partie. Quand, je vais faire simplement une parenthèse, quand j'ai repris la route en 2008, quand j'étais avec Fabienne à ce moment-là, puis en 2008, j'ai refait un autre épisode. Alors, mais un épisode uniquement manie psychose. Alors, mais là, Fabienne, elle avait l'information, mais elle s'attendait vraiment pas à ce que ça arrive. C'est Richard, il allait trop bien. Richard, il avait une vie équilibrée. C'est comme aujourd'hui, d'ailleurs. Puis, boum, du jour au lendemain, là, Richard se met à avoir des signes. Puis moi, c'était un de mes patterns. Là. Si vous lisez mon premier livre, là, Le fragile équilibre, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Je voyais des signes partout. C'était absolument extraordinaire. Là. C'est comme si je possédais un grand secret divin. Et puis là, Fabienne, ben, elle a tout de suite réagi. Puis elle a posé de bons gestes. Elle est allée dans un de ces groupes-là. Puis elle a été rassurée. Elle a eu la bonne information. Puis elle a pu m'accompagner en se disant, genre, OK, ça va pas bien là, mais ça va venir, tu sais, le Richard que j'ai toujours connu, il va revenir, tu sais, c'est parce que c'est pas, je comprends que c'est pas facile, tu sais, c'est.
J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti.
Non, mais c'est exactement ça, et c'est vrai que. On se rend pas compte de ce que ça peut être pour nos proches aussi.
Non,
parce que nous, en fait, on est dans le truc et du coup, on est une différente version de nous-mêmes. C'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Parce ouais. qu'on reste quand même, nous, on a quand même quelque chose, mais on est une différente version, on va dire. Et c'est vrai que le fait que les proches puissent réagir et bien réagir, bah pour ça, comme tu l'as assez bien dit, bah déjà, il faut leur communiquer. Ce n'est pas toujours simple de leur communiquer, qu'ils soient au courant, qu'ils puissent avoir potentiellement lu un livre. Et du coup, qu'ils aient ces bons réflexes de se dire, OK, j'ai l'impression que mon proche est dans une phase. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je peux aller voir telle organisation. Je sais que je peux aller voir, enfin, nous, on parle plutôt d'associations. J'ose imaginer que c'est la même chose en.
Non, d'organismes. C'est des organismes communautaires.
D'accord. C'est, autant pour
moi. Ça pourrait être association sans problème. Là.
D'accord. Ouais. Non, mais c'est des organismes communautaires, OK. Et il y a ça, et il y a aussi quelque chose, moi, que je dis beaucoup, mais je suis curieux d'avoir aussi ton avis. C'est notamment la partie, le fait de consulter pour soi. Ouais. Et je trouve des fois que les proches veulent tout prendre sur eux en se disant, c'est la personne concernée par la bipolarité qui doit aller voir un psy, donc un psychiatre ou un psychologue, mais qu'ils ne le font pas eux-mêmes pour eux. Alors que pour autant, leur vie est chamboulée. Ils se retrouvent du jour au lendemain au niveau du travail, au niveau du temps de sommeil, et vraiment de prendre soin de soi et de ne pas hésiter à eux-mêmes aller faire une thérapie.
Mais, t'as raison, t'as tout à fait raison. Puis nous, en tout cas, dans les organismes pour les membres de l'entourage, on peut faire des thérapies, on peut faire de l'individuel, on peut y aller en couple, mais aussi c'est possible d'y aller en groupe. Il peut y avoir un groupe dans un organisme, par exemple, il peut y avoir un groupe sur, les troubles de personnalité limite, par exemple. Tu sais. Alors, tu vas rencontrer des membres de l'entourage de personnes qui vivent avec un trouble de personnalité limite. Ça, c'est simplement pour donner un exemple. Alors, il faut surtout pas hésiter. Je pense que pour nous, il faut aller chercher tous les outils possibles. Ça, c'est correct. T'sais. Mais parmi les outils, il y a effectivement toute cette dimension-là pour les membres de l'entourage qui peut être gagnant si c'est bien utilisé. C'est ce que j'ajouterais, OK? Je vais donner aussi un autre, histoire de se donner d'autres exemples. Moi, il y a 5 ans, ma conjointe Fabienne a eu un cancer virulent, là, un cancer très important, puis s'est retrouvée à deux doigts de la mort. Puis J'ai dû l'accompagner, puis on a rencontré quelques jours avant l'opération son chirurgien, puis son chirurgien la regarde droit dans les yeux, puis il me regarde en disant, vous savez, madame, un cancer de l'utérus, dans 95% des cas, il n'y a aucun problème, mais dans votre cas, vous êtes dans le 5%. Alors, donc, moi, je me retrouvais à ce moment-là dans une position de membre de l'entourage. C'était à mon tour d'être membre de l'entourage d'une personne qui vivait une autre situation. C'est pour ça que tantôt, je parlais de détresse. La détresse, tu sais, là, on parle d'enjeux de santé mentale, c'est correct, mais la détresse peut prendre toutes sortes de formes. Donc, une maladie physique comme ça, ça arrive souvent. En plus, le cancer, c'est quelque chose qui est quand même très, très fréquent. Fait que j'ai accompagné Fabienne du mieux que je le pouvais. Puis même encore aujourd'hui, elle m'en parle. Elle a toujours des craintes et c'est normal. Fait que je dois effectivement composer moi-même avec cet élément-là.
Oui, voilà. Mais c'est important. Et c'est un peu une manière aussi de lui rendre ce qu'elle t'a donné à l'époque quand elle t'a accompagné. Et concrètement, à ce moment-là, quand elle a justement pu découvrir cette phase maniaque, qu'elle est allée voir donc, un organisme, qu'est-ce qu'elle a mis en place comme action?
Ben, elle était très informée. Hein? C'était vraiment... Elle est allée chercher de l'information, ce qui fait que quand la manie a recommencé, je commençais un nouveau travail, tout allait bien, tout était parfait dans ma vie. Puis là, on va dire en riant, là, ça a décollé, là, ça a vraiment décollé. Fait que là, je voyais des signes. Puis là, Fabienne, elle m'a donné un site. Oh, Richard, il y a quelque chose qui va pas. Et j'avais toujours connu deux éléments importants avec elle. Fabienne, si tu as la sensation que ça va pas bien, demande-le-moi et je vais aller à l'hôpital avec toi. Je vais te suivre. OK? C'est une entente qu'on a entre les deux. Autre entente qu'on a, c'est au plan des finances. On a toujours convenu, si ça va pas, Fabienne, tu as l'impression que Richard là, il commence à dérailler un petit peu, puis bon, tu as l'impression qu'il va se retrouver en manie ou en psychose, tu as accès à tous mes comptes de banque, tu peux tout fermer. OK? Alors ça pour moi, c'est une façon de protéger aussi le patrimoine familial. C'est parce que tu ne veux pas te retrouver au bout de tout ça, après un épisode, déjà qui est souffrant, avec en plus d'autres souffrances importantes. Donc, chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, c'est correct. Mais quand ça va bien, c'est là qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens qui sont près de nous pour justement se retrouver en bonne posture si jamais il arrivait de nouveaux épisodes.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, des choses assez simples aussi, mais c'est que les proches puissent avoir les coordonnées d'autres proches assez facilement. Pour pouvoir demander de l'aide, ça, c'est quelque chose que je trouve assez utile. Il y a, personnellement, moi, c'est le fait de, par exemple, contacter ma mère ou que ma mère puisse contacter ma copine. Enfin, ça, c'est des choses qui sont importantes. Oui. Le côté sommeil aussi, le côté sport. Le fait de... Moi, j'ai demandé à mes amis proches, par exemple, de faire plus attention, par exemple, sur tout ce qui est soirée, consommation d'alcool, à pas me pousser sur ces choses-là. Et en fait, par exemple aussi, et surtout, parce que personnellement, on a tous des moments où on sent que ça part un petit peu, et c'est gérable, mais il y a un peu ce côté où il faut tout de suite agir. Je sais pas comment toi tu le vois, moi c'est vraiment, il y a des moments où je vois le sommeil qui se dérègle un peu, et en fait, tu sais que là, t'es dans un moment clé. Tu as encore un peu conscience de ce qui se passe avant que ça soit potentiellement un peu plus puissant, en fait. Et c'est là où il y a vraiment ce plan d'action au niveau du sommeil, au niveau des sorties. Enfin, et donc, en phase dépressive, ça va être par exemple plutôt le sport, ce genre de choses. Toi, t'as les choses comme ça aussi ou comment tu
Non, pas beaucoup maintenant. Je suis allé chercher un équilibre de vie à bien des niveaux. Par exemple, justement au niveau de la consommation de boissons, par exemple, je suis rendu avec, je prends presque plus de vin. Je prends ici au Québec, on a ce qu'on appelle des microbrasseries. Donc, puis on a des bières de microbrasseries tout à fait extraordinaires, mais sans alcool aussi. Alors, pour moi, ça, c'est une vraie merveille. Puis comme j'ai un petit peu de poids à perdre, bien là, à ce moment-là, en éliminant ces éléments-là, bien, j'ai même un bénéfice supplémentaire. Alors, c'est tout est équilibre, petite chose par petite chose. Donc, j'ai vu une nutritionniste encore récemment. Et puis, ça aussi, c'est pour moi un plus dans ma vie. Donc, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, on peut régler un problème, mais si, par exemple, les antidépresseurs souvent font engraisser, si tu engraisses, donc tu déplaces un problème vers un autre, tu sais, il faut trouver une façon d'avoir un équilibre, tu sais. Donc, pour moi, je fais beaucoup, quand même pas mal de sport, c'est quand même très, très bien de ce côté-là. Tu sais, je me sens à la hauteur. Sauf que je sais très bien que demain matin, je peux me lever puis il peut se passer quelque chose. Tu sais, c'est comme ça. Peut-être qu'en vieillissant aussi, ça tend à s'amenuiser. Donc, je vais avoir 64 ans début septembre. Donc, mais je ne prends pas ça pour acquis. Je préfère simplement dire, bon, OK, prends soin de toi maintenant. C'est ça qui est le plus essentiel. En fin de semaine dernière, je suis devenu grand-père de sang pour la première fois. Vous dire ce que ça fait. Bon, ben là, à ce moment-là, oui, on va profiter de ces moments-là. Moi, prendre un tout petit bébé, prendre la vie comme ça dans mes bras, bercer l'enfant, ben, penser, parce qu'il y a des gens qui vont penser, ben, t'as pas peur que cet enfant-là, qui est de la génération suivante, ait aussi un diagnostic de trouble bipolaire. Moi, j'embarque pas beaucoup là-dedans. Là. C'est pas dans mes cordes. Il peut y avoir des éléments génétiques. J'en conviens, mais il peut y en avoir pour toutes sortes de maladies ou quoi que ce soit.
Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est un élément que je reçois. C'est, en fait, on ne faut pas non plus avoir peur de vivre. Et je pense que ça, c'est essentiel dans le sens où il y a eu pendant un certain temps un peu ce côté-là, où on avait tendance à avoir, alors je ne connais pas assez le Canada, mais en tout cas en France, un petit peu le côté, bon, entre guillemets, voilà, on va vous mettre un peu à côté, faites pas trop de bêtises, mais c'est pas grave, enfin, faites votre truc de votre côté. Et en fait, non, on peut faire des choses, on peut avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Alors, bien sûr qu'il faut l'adapter, et tu le dis assez bien, enfin, il y a des choses, moi, pareil, en fait, on est un peu pareil là-dessus, hein, sur l'alcool, on fait très attention, mais par contre, on peut faire des choses. Et je trouve que, enfin, si je devais définir moi-même le rétablissement, c'est un peu ça, en fait. C'est vivre la vie qu'on a envie d'avoir.
Ouais.
Que les troubles bipolaires soient quelque chose qui soit un poids, en fait. C'est un peu ça. En fait, on a appris à vivre avec et on a appris à être heureux avec. Et nos proches, un peu comme nous, ont appris aussi à vivre en, allez, osmose, c'est peut-être un trop grand mot, mais à vivre avec et que ça garde un certain équilibre. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et moi, je dis toujours ça. Et c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Parce que dans les moments qui sont difficiles, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'on en a tous hein, dans la vie. Ça peut être... j'en sais rien, le stress, un ami qui va pas bien, une perte d'un emploi ou autre, c'est un peu ce qui nous permet de nous raccrocher à notre hygiène de vie. Parce que Parce qu'en fait, l'hygiène de vie, ça va vite à partir et c'est compliqué à mettre en place.
Ah oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est certain. Dans ce que tu dis, il y a un élément que je trouve très, très important, c'est de toujours se rappeler qu'en fait, il y a deux choses dont on est certain dans la vie. On va vivre des souffrances, puis on va vivre des deuils. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui nous rejoint tout le temps à un moment donné. Donc, tu sais, comment est-ce que je vais pouvoir être heureux là-dedans? T'sais? Autre élément dans ce que tu dis, c'est apprendre à vivre avec. OK? Donc, c'est la même chose par rapport aux souffrances et aux deuils. Donc, apprendre à vivre avec. Moi, j'emploie, dans les termes que j'emploie le plus souvent dans mes conférences, c'est le mot apprivoiser. Puis des fois, on va, dans les approches cliniques, on va avoir tendance à utiliser le mot accepter. Moi, je n'utilise pas du tout le mot accepter. Si vous me retrouvez demain matin sur l'étage d'un hôpital en psychiatrie, puis que vous venez me voir, puis vous me demandez que vous me dites bon, tu as avantage à accepter. Non. Je suis en colère, là. Oublie ça. On n'accepte pas. Mais par contre, si tu me demandes d'apprivoiser graduellement, on va le faire. C'est comme ça que je le vois beaucoup. C'est pour ça au début, quand je vous parlais de termes.
Si tu peux en mettre le contexte, parce que je pense qu'on n'a pas enlevé cette partie-là. Mais oui, ce qu'expliquait Richard, en fait, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. C'est que, en fait, il y a énormément de termes qui sont utilisés. Et en fait, ils ont une signification qui est parfois très importante. Je pense à quelque chose assez basique. Par exemple, on parle de troubles bipolaires. Et de plus en plus, personnellement, moi, j'essaie d'utiliser le terme bipolarité. Parce qu'en fait, il y a une connotation hyper négative à quelque chose. Ouais. Et en fait, il y a plein de petites choses comme ça. Et du coup, le côté acceptation, le fait d'accepter, apprivoiser. Et il y a vraiment, je pense, un travail à faire pour éviter la stigmatisation de réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres termes. On parlait aussi de personnes bipolaires. On ne parlait pas de bipolaires. Parce qu'on est avant tout une personne, on est beaucoup plus qu'une pathologie. Et c'est juste qu'une, entre guillemets, une partie de nous. Mais justement, toi, quelles sont tes théories là-dessus?
Mais tu vois, juste personne bipolaire, pour moi, c'est déjà trop. C'est drôle à dire, hein? Mais de dire, par exemple, une personne, ça, c'est pas, je parle pour moi, là, OK? Donc, une personne qui vit avec une personne pleine et entière, avec des projets de vie, avec des passions, des intérêts, qui, parce quoi, vit avec un diagnostic de trouble bipolaire. Vous voyez où il est, le trouble bipolaire, là-dedans? OK? C'est ce que je veux dire. C'est parce que à partir du moment où on le raccroche tout le temps à la personne, à un moment donné, on pense qu'on est un diagnostic. Il faut éviter ça complètement. Tu sais, j'ai un de mes bons amis qui a écrit un livre qui s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie ». Alors, vous voyez un petit peu. Donc, tu sais, quand on s'éloigne effectivement de la pathologie, ça ne veut pas dire que la pathologie ne peut pas être là, qu'elle ne peut pas être présente, tu sais, qu'on ne peut pas avoir la conscience qu'elle puisse être là, qu'elle puisse même réapparaître au cœur de notre vie. Sauf que la réalité quotidienne, bon, ben moi, par exemple, j'ai une vie affective, j'ai un travail, c'est tout ça. Je suis grand-père maintenant. J'ai une collection je collectionne des cartes de hockey parce qu'ici au Canada, on est des amateurs de hockey. Alors, moi, j'ai des cartes de hockey. Imaginez, c'est drôle, hein, pour un gars comme moi. Des cartes de hockey. C'est des joueurs de hockey.
OK, pardon. Excuse-moi, je n'avais pas.
Vous autres, ça serait de football, là, tu sais, mais moi, c'est.
Pas tant que ça, c'est pas tant que c'est un truc, mais non, mais c'est ce que tu dis, ouais, c'est... Mais en fait, c'est ce qui est compliqué, c'est d'exprimer la plénitude d'une personne, et que oui, la bipolarité, c'est une petite chose, et pour autant, enfin, moi, je te dis aussi, c'est pas facile quand tu essaies de t'exprimer à l'écrit.
Mais non.
Parce que tu peux pas toujours développer une grande phrase à chaque fois, parce que il faut aller droit à ton but Mais c'est un sujet qui est assez intéressant et ça serait cool d'avoir un peu une nouvelle manière, mais pour les psychiatres, parce que je pense que c'est avant tout les psychiatres qui vont avoir un rôle déterminant là-dessus, d'enseigner la psychiatrie et de dire on va peut-être pas utiliser ce terme-là, on va essayer d'en utiliser d'autres. Et ça va peut-être même changer la perception de certains psychiatres sur justement la pathologie.
Oui. Moi, je te dirais, écoute, c'est ça. Nous, bon, oui, les psychiatres, moi, je te dirais probablement tout ce qui est le réseau de la santé au complet. Tu sais, c'est un peu comme ça. Tu sais, ce qui est important, c'est pas d'arriver avec ce qu'on pense être la vérité, c'est peut-être davantage de réfléchir sur ce qui peut être bon pour une personne qui par exemple, je me retrouve sur un département de psychiatrie. T'sais, comment est-ce que vous croyez que Richard aimerait être considéré? Là, on sort des mots. T'sais, on part pas on part pas avec des expressions, on sort des mots. T'sais. Fait que, t'sais, et puis moi, j'ai fait cet exercice-là justement dans le cadre d'ateliers au Nouveau-Brunswick. Et puis, le premier mot qui ressortait, là, c'était toujours respect. T'sais, c'était le respect. T'sais, donc, ça, après ça, ben là, il y a il y a toutes sortes de mots qu'on peut intégrer qui sont respectueux de la personne. Je vais donner un mot que ici plusieurs personnes détestent et je suis un des premiers, c'est le mot usager. Moi, le mot usager, c'est ça me donne des boutons. Okay? Moi, je dis en riant, là, évidemment, ça me donne des boutons. Donc, c'est un terme qui ne colle pas au respect. Tiens? Donc, il faut que ce soit tout d'abord une personne. T'sais, pourquoi usager? Ça colle à quoi ce terme-là? Je sais que c'est une vieille terminologie qui est souvent intégrée dans les lois, etc. Là. Mais il reste qu'on est rendu à une autre époque, à mon sens. Là. Puis, mais ça vient aussi, par exemple, de tout ce qui était users américains, puis etc. Alors mais on est rendu, tu sais, si toi et moi, on parle de personne, bon, ben pourquoi est-ce qu'on parle pas, on part pas de ce terme-là, donc la personne. Ici, par exemple, je sais qu'il y a des organismes qui vont parler de personnes concernées, par exemple. Tantôt, je t'ai parlé d'experts de vécu, donc des personnes vivant ou ayant vécu avec un enjeu de santé mentale. Il y en a pour tous les goûts. On est rendu avec un nouveau plan un nouveau plan santé mentale ici au Québec avec le ministère de la Santé et des services sociaux. Et dans ce plan-là, on a complètement évacué le mot usager. Ça n'existe plus. Donc, c'est 120 pages avec pas de mot usager. C'est le fun, ça, moi, quand j'ai vu ça. Ça veut pas dire que c'est parfait.
Non, non, bien sûr, mais c'est une belle évolution et il y a une prise de conscience en France. Alors, je dirais pas que c'est encore parfait, mais bon, en tout cas, il y a une réflexion là-dessus. Il y a une question que j'aime beaucoup poser pour un peu finir notre échange, même si on pourrait passer plus de temps, mais j'essaie de rester dans un temps assez limité. C'est si toi, tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale?
faudrait que je. Peut-être qu'en manie, je pourrais peut-être te répondre pas mal mieux. Écoute, le premier point, c'est c'est que quand on pense à la santé mentale, généralement, on pense à tout ce qui est curatif. Alors que, à mon sens, on doit mettre l'accent sur la promotion et la prévention. Donc, pour moi, tout ce qui est santé mentale, ça commence par l'enfant, quasiment l'enfant au berceau. C'est l'enfant dans les garderies, l'enfant dans les écoles primaires, secondaires, les capacités parentales aussi au travers de ça. Donc, tu sais, je pense que si on mettait beaucoup d'accent là-dessus, tu sais, dans le fond, c'est sur le savoir-être, tu sais, c'est sur le savoir-être. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui se retrouvera à l'hôpital. C'est drôle à dire, hein, mais c'est en tout cas c'est ma. Tu sais, tu me parles de baguette magique là, c'est vers là que je tendrais. C'est comme ça. Quand on a un diagnostic de trouble bipolaire, on peut penser à toutes sortes de patentes de même. C'est le fun, ça.
Non, mais c'est assez bien dit. Et Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a tous une autre manière de faire, mais le côté, moi, c'est vrai que ça me tient aussi à cœur, le côté prévention, et vraiment le fait de comprendre que ce soit quelque chose de connu, et ça éviterait tellement de soucis, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il y a tellement de choses à faire, mais c'est super de voir que bah, tu peux y contribuer. Moi, je trouve ça assez sympa de ta part, même si c'est un peu dommage, on n'aura pas le temps de parler de tes bouquins, mais je vais quand même les mettre en lien. Enfin, je trouve ça intéressant pour bah, vous, si vous avez envie justement de les découvrir. Et je te remercie vraiment. Enfin, c'était un échange, je trouve, très, très concret. C'est ce que j'ai aimé. Un peu à cœur ouvert, et c'est ça que je trouve super, en tout cas, et je tenais vraiment à te remercier.
Ben, écoute, ça me fait plaisir, puis je te remercie moi aussi, parce que je trouve que tu es une... Tu respires, comment dirais-je, une espèce de joie de vivre quand même, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est toujours plus agréable dans ce temps-là de pouvoir... Puis je pense que c'est important aussi, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, puis de penser que la différence est acceptable, qu'on puisse penser de façon aussi différente, puis, mais avancer là-dedans, puis réfléchir dans la différence. Ça pour moi, c'est bien, bien important.
Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.